Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le gouvernement avait promis un plan d'ampleur pour l'hôpital, il a donc mis les moyens, 10 milliards d'euros sur 3 ans pour éponger un tiers de la dette des hôpitaux, une enveloppe pour les investissements du quotidien, des primes pour les bas salaires. Les réactions sont plutôt mitigées depuis ce matin, ce qui est sûr c'est que les finances publiques sont mises à rude épreuve quand il s'agit de calmer les colères. Le gouvernement qui, selon le dernier rapport du COR, va aussi devoir trouver de quoi remettre les comptes des retraites à l'équilibre d'ici à 2025, entre 8 et 17 milliards de déficits prévus. Les mesures annoncées peuvent-elles redonner de l'oxygène à l'hôpital et au personnel? Comment le gouvernement, dans ces conditions, peut-il tenir son budget? Comment peut-il équilibrer par ailleurs le régime des retraites? Hôpitaux-retraites, où trouver les milliards? C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Philippe de Sertine. Vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je cite votre dernier ouvrage, Le talent et les assassins, publié aux éditions Anne Carrière. Fanny Guinochet, vous êtes journaliste au service économie de l'Express. On peut aussi vous retrouver tous les matins sur la radio France Info. Sophie Fay, vous êtes journaliste, chef du service économie à l'Obs. Enfin, Mathieu Plane, vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques où vous dirigez le département analyse et prévision. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Il fallait calmer les colères, le gouvernement l'avait dit. Il a annoncé une sorte de plan d'urgence pour l'hôpital. Il a sorti son chéquier, Fanny Guinochet.
Ah, clairement, hein, là, c'est du lourd. il a effectivement pas lésiné sur les annonces, parce qu'il y a une enveloppe de 10 milliards d'euros. On reprend donc la dette. On redonne un peu de marge de manœuvre aux hôpitaux via les dépenses, enfin, en tout cas le niveau de volume de dépenses qu'ils vont pouvoir faire. Et puis, il y a tout un système de primes, d'aide au logement pour les soignants qui habitent, enfin qui travaillent dans les grandes villes où il y a des tensions sur l'immobilier et qui souvent...
Particulièrement en Ile-de-France.
Particulièrement en Ile-de-France et souvent qui ont des problèmes de budget parce que tout simplement ils n'arrivent pas à se loger. Donc c'est vrai qu'il y a toute une série de mesures face à une grogne pour essayer d'apaiser une grogne qui était là quand même depuis longtemps. Hein. Ça fait 8 mois que les hôpitaux estiment que... Enfin, sont en grève. Il y a d'abord eu la grève dans les urgences et puis ce qu'il y a surtout cette grève, elle ne s'est pas tassée alors que le gouvernement pensait qu'il y aurait un phénomène d'usure. Il n'y avait pas de phénomène d'usure. Et puis, il y a les médecins qui sont rentrés, alors non pas en grève, mais en tout cas qui ont soutenu le mouvement, qui ont fait des tribunes. Donc là, ils se sont dit au niveau du gouvernement, bah mince, ça ne concerne pas que les soignants. Puis enfin, dernier point qui a fait basculer le gouvernement dans sa décision de répondre au malaise de l'hôpital, c'était aussi parce que les sondages montraient que cette grève, ce mouvement était suivi par l'opinion publique et notamment par le socle de macronistes, c'est-à-dire l'électorat qui reste à Emmanuel Macron, qui estimait que la santé, c'était quelque chose d'important et qui ne comprenait pas qu'il n'y ait pas de gestes faits en direction du personnel soignant.
Juste, Sophie Fay, c'est le troisième plan que le gouvernement présente sur l'hôpital. On ne va pas revenir dans le détail des précédents, mais là aussi, il y avait eu des fonds qui avaient été débloqués en urgence pour répondre à la colère des personnels hospitaliers qui ne datent pas de ces 8 derniers mois, hein, qui datent depuis bien des années. En quoi est-il différent, ce plan-là? Est-ce qu'il est plus ambitieux?
Alors, il est quand même plus ambitieux puisqu'on enlève une partie de la dette à l'hôpital, ce qui va permettre à certains établissements de respirer. Hein. Il y en a qui commençaient à avoir des difficultés avec leurs fournisseurs, qui refusaient de les approvisionner en médicaments, en particulier en Outre-mer, parce qu'ils avaient la réputation d'être des mauvais payeurs. Donc ça soulage. Le geste est quand même, on voit là l'engagement très fort du gouvernement qui montre qu'il a entendu, qu'il s'en occupe sérieusement, qu'il prend en considération. Mais on se demande quand même ce qui va suivre après, parce qu'on voit bien que là, on a une réponse d'urgence. Même si la dette, ça peut paraître être une réponse plus structurelle que simplement de donner de l'argent année par année, si on répond à certains problèmes des soignants, ça peut paraître structurel, mais au fond, on ne traite pas vraiment de la question de fond, l'organisation de l'hôpital et de tout un tas de problèmes dans l'organisation du parcours de soins en France. Et puis, il y a des choses qui sont quand même qu'on n'arrive pas à comprendre. On n'a toujours pas de dossier médical partagé. Tant qu'on règle pas certains problèmes de système d'information, de communication entre les hôpitaux, ben, on voit qu'on met de l'argent, mais dans un tonneau des Danaïdes quand même.
Avec cette idée qu'il y avait une revendication sur les rémunérations et que le gouvernement propose des primes, c'est différent, forcément. Là, pour le coup, ça coûte moins cher au budget de l'État, hein, c'est moins onéreux et ça répond à une urgence avec cette spécificité, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est de dire ben, on va s'occuper de ceux qui sont dans des zones tendues, comme on dit, qui ont du mal à se loger, mais ça crée quelque chose, on l'a vu hein, dans les réactions, on l'entendra dans le premier reportage, un peu compliqué à défendre, qui est de dire ben, il y aurait ceux d'Île-de-France qui auraient droit à des primes et puis les autres, non.
Alors, il faut reconnaître quand même qu'il y a un problème spécifique de logement en Île-de-France. Mais on voit bien que ce n'est pas la bonne réponse. Si on veut résoudre le problème du logement, on s'occupe du logement. Et donc, en donnant des primes, on voit bien qu'on colmate et qu'on ne résout pas le problème structurel. Et puis, quand on est dans d'autres parties de la fonction publique, qu'on est obligé d'être à Paris, ou quand on est dans certaines fonctions, y compris dans le secteur privé, et qu'on est obligé de vivre à Paris, on a le même problème que les personnels soignants. Donc on se dit, bah, et moi ? Donc le gouvernement a ouvert la porte à d'autres revendications en reconnaissant le problème et en ne le traitant qu'à moitié. À sa décharge, c'est quand même pas simple.
Philippe de Sertine, sur ce plan ?
Je crois vraiment que la question qui se pose, à mon avis, par rapport à cette annonce de mesure, c'est la stratégie. Et là, je ne parle pas uniquement, on va dire, des finances publiques, oui, qui serait peut-être la logique la plus forte à laquelle je me rallierais, mais c'est vraiment sur cette question de l'hôpital. L'hôpital, comme on le dit, il est en crise depuis longtemps. La santé, on sait que c'est un des atouts forts de la France. Et d'ailleurs, de l'économie française, on sait qu'on est bien soigné en France, on sait qu'on vit longtemps, donc c'est quelque chose, c'est un actif qu'il faut absolument préserver. On a déjà eu, du point de vue de l'hôpital, depuis longtemps, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme en disant on a laissé les hôpitaux s'endetter comme ils le souhaitent, on a relâché la question de l'utilisation de la dette. Alors évidemment, hein, qu'on ne peut pas contrôler la dette de manière stricte quand, dans l'ensemble, on considère que finalement, en ce moment, la dette est gratuite, donc on peut s'endetter autant qu'on veut, mais on se rend bien compte qu'à un moment donné, il y a un problème. Là, c'est vrai, quand on dit les 10 milliards sur la dette, en fait, ce n'est pas le plus important. La vraie question, c'est de dire, oui, mais stratégiquement, qu'est-ce qu'on doit mettre sur la table pour dire ça, c'est un axe que les pouvoirs publics français veulent absolument maintenir. C'est ça la vraie question qui se pose. C'est-à-dire, au fond, on a l'impression d'une réaction coup par coup, alors que peut-être là, c'est
parce
vraiment
qu'il y a urgence, pour le coup.
Oui, mais il y a urgence. Non, mais ça fait longtemps qu'il y a urgence. Et on va dire à chaque fois, bah oui, quand les gens disent, là, quand on voit les mouvements qui ont eu lieu, c'est de dire, vraiment, on est au bord de la rupture. Mmh. Mais quand même, quand vous êtes dans les services publics, à un moment donné, vous vous en rendez compte bien avant. Vous vous dites qu'il va falloir attendre que les gens se mettent en grève, décident que là, maintenant, ça va être dangereux d'un point de vue politique, il va y avoir convergence avec le 5 décembre, parce que c'est ça, là, qu'on est en train de voir. C'est on lâche des milliards, parce qu'il faut, on ne voudrait pas qu'il y ait quelque chose.
C'est ce qu'on a toujours fait ou pas ?
Oui, mais c'est ce qu'on a toujours fait. On est bien d'accord, quand je dis ça, peut-être que tous nos spectateurs sourient en disant, mais ils découvrent la France ou quoi ? Mais sauf que quand même.
Ils disent pas ça, je vous assure.
Oui, non, mais voyez, je crois qu'il y a vraiment une question stratégique en disant, où on va, qui décide, quel est l'axe. Si on doit mettre de l'argent dessus, c'est pas sous la pression qu'on le fait. Il faut le faire de manière cohérente, rationnelle. Depuis longtemps, cette question de la dette, ça fait longtemps. Pourquoi on n'avait pas réagi ? Et là, tout d'un coup, effectivement, c'est une annonce dont on a le sentiment qu'elle vient à la va-vite.
Mathieu Plane, le président, quand il a parlé de ce plan renforcé, hein, en tout cas plan d'ampleur, je ne sais plus quel mot il avait utilisé, en tout cas on sentait bien que c'était quelque chose d'assez massif, il avait parlé d'investissement. Il n'avait pas dit dépenses, il n'avait pas dit largesse, il avait dit investissement. Est-ce que les dépenses qui ont été annoncées aujourd'hui, vous les considérez comme des dépenses d'investissement dans un système de santé qui est performant, auquel les Français sont très
performant,
attachés?
Performant, oui, mais qui risque de l'être de moins en moins, mais oui, il y a deux choses. Hein. C'est effectivement, je pense qu'auprès de l'opinion publique, investir, ça passe mieux que de dire dépenses publiques. Alors qu'au fond, on peut dire que rémunérer mieux des aides-soignants, c'est une forme d'investissement sur l'attractivité des métiers, parce qu'ils ont un problème de recrutement. Il y a 25% de déficit de recrutement chez les médecins hospitaliers. Donc voilà, il y a aussi la question de l'attractivité de l'hôpital. Et l'investissement, oui, bien sûr, c'est aussi l'investissement dans toutes les technologies. Il faut savoir que la santé, c'est un enjeu majeur, bien sûr, mais qui est confronté d'abord au vieillissement de la population, et que donc on a une tendance naturelle à l'accélération des dépenses santé, parce que plus on a de personnes âgées dans une société, plus les dépenses de santé augmentent, c'est mécanique. On a l'effet du progrès technique, c'est-à-dire mieux on sait soigner les gens, plus on les maintient longtemps en vie, plus aussi ça coûte cher. Et donc le progrès technique coûte cher, donc l'investissement aussi peut être une réponse. Et donc on a un défi majeur, qui est de dire mieux soigner les populations, les maintenir plus longtemps en espérance de vie, en bonne santé, mais ça nécessite des dépenses supplémentaires, des investissements supplémentaires, et garder une attractivité des métiers.
C'est ce qui a été fait ?
En partie. Alors, effectivement, on n'est pas sur une réforme de grande ampleur, qui n'est pas une réforme structurelle. C'est vrai que je pense que c'était une bonne idée de reprendre la dette des hôpitaux pour plein de raisons, parce que ça ne modifie pas la dette publique de la France. En réalité, c'est juste un effet de vase communicant et que ça libère des marges financières pour investir. Mais effectivement, à plus long terme, il y a cette question de la santé, de l'hôpital, des soins de ville qui sont à côté, parce qu'effectivement, on a plus de dérapages du côté des soins de ville. Et les objectifs qui sont donnés en termes, ce qu'on appelle l'ONDAM, hein, sont extrêmement ambitieux. C'est-à-dire que c'est à peu près 2,3% d'augmentation
des dépenses. C'est quoi l'ONDAM ?
C'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Et donc, c'est un objectif qui est contrôlé chaque année. Il faut savoir que dans le rapport qui est donné, que spontanément, les dépenses santé doivent augmenter de 4% par an. Et l'objectif est ramené à 2,3%. Ça fait des économies de l'ordre de 2 milliards d'euros par an. Donc, c'est conséquent. Vous pouvez les trouver, vous pouvez rationaliser au début. Ça fait 10 ans qu'on le fait. La question, c'est que je pense qu'on est arrivé un peu au bout de cette logique et qu'il faut repenser ça. C'est soit accepter de payer peut-être plus cher, collectivement, cette santé, ou alors il va falloir trouver d'autres moyens ou de savoir comment, collectivement, on va gérer cette situation.
Donc vous êtes sur l'idée aussi qu'il manque une stratégie. En tout cas, c'est un plan qui répond à une urgence qui était indispensable.
Il ne faut pas le minimiser, je pense. Le plan, effectivement, il a quand même un certain nombre de réponses qui ne sont quand même pas inintéressantes. Mais on attend de voir ce qui sera dans 5, 10 ans, 20 ans, la question de l'hôpital. Parce que cette question de la santé, on parle beaucoup des retraites et des besoins de financement. Je pense qu'on sous-estime l'impact du vieillissement, notamment, sur nos régimes de santé et le financement qui va avec.
Et d'ailleurs, Agnès Buzyn, au départ, quand elle est arrivée, elle voulait faire un vrai plan pour voir ce qui serait de l'ordre de la médecine de ville, c'est-à-dire tout ce qui est médecin que l'on va voir dans les cabinets hein, quand on est patient. Et puis l'hôpital, de rééquilibrer tout ça, d'essayer de trouver les poches d'économie possibles, de voir si on payait suffisamment bien les tarifs hospitaliers. Il y avait toute une volonté de mettre à plat, sauf qu'elle a été rattrapée par la réalité. Enfin, voilà, ça
c'est-à-dire
fait...
la colère sociale,
ouais. Parce que ça faisait trop d'années que les gens n'en pouvaient plus. Et donc, le plan qu'elle avait lancé, qui était un plan qui se serait déroulé sur plusieurs années, non, ça n'était pas possible. Les personnels hospitaliers ne voulaient pas attendre, et à juste titre, parce que quand vous allez dans certains services d'urgence, vous n'avez même pas, quasiment pas de pansement. Quand vous voyez ce qu'a sorti le Canard enchaîné, qui dit que sur certains nourrissons, ils ont dû, en de France, ils ont dû être envoyés à Rouen, à Amiens, dans d'autres établissements et de faire 150 km, on marche sur la tête. Et tous les médecins là alertaient, notamment du côté de la PHP, donc les hôpitaux de Paris, pour dire attention, on rentre dans l'hiver, il va y avoir une épidémie de bioncrolite, ce qui est classique, la grippe, voilà, il va y avoir plein de nouveau-nés et on ne saura pas les accueillir parce qu'on manque de lits, parce qu'on n'a pas les infirmières suffisantes, les aides-soignantes suffisantes. Donc il y avait.
Il n'y a pas d'annonce en termes de création de lits.
Non, il n'y a pas d'annonce, mais l'idée,
c'était
effectivement de faire des primes et d'aider pour qu'on ait. On attire des soignants.
Et on va voir dans le détail ces mesures. En tout cas, trop tard, trop peu, à côté, depuis ce matin, les réactions de l'opposition sont sévères, comme celles des personnels hospitaliers. Pourtant, et on l'a dit depuis le début de cette émission, le gouvernement a présenté des mesures financières d'ampleur, comme ces 10 milliards d'euros qu'il va consacrer à la reprise de la dette des hôpitaux. Pierre Millet, Magali Lacroze.
Face à la colère du monde hospitalier, il fallait bien ça. Un chef du gouvernement, une ministre de la Santé et un plan d'urgence.
En France, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit la ville ou le village où l'on habite, on doit être bien soigné à l'hôpital. Ça n'est plus toujours le cas.
Alors le gouvernement sort son chéquier et fait quelques annonces. Premier dispositif concernant les hôpitaux. Des enveloppes successives d'1,5 milliard d'euros seront distribuées sur 3 ans. Deuxième annonce, une prime de 800 euros par an pour les bas salaires à Paris et en petite couronne.
Ma conviction, c'est que nous ne pouvons plus dire aux soignants que ce qu'ils font a du sens, tellement de sens, sans leur apporter une reconnaissance sociale et matérielle à la hauteur de leur engagement au quotidien.
Également prévu, une prime annuelle d'environ 300 euros versée pour récompenser l'engagement des personnels. Certains syndicats dénoncent toutefois un manque de concertation.
C'est mal ficelé et ce n'est pas ce qu'attendaient la contestation et les organisations syndicales. Et là encore, moi je regrette, vous savez, depuis que le mouvement a été lancé, etc., il n'y a jamais eu de grande concertation autour de la table pour prendre du temps, parler entre nous. On n'est pas les ennemis les uns des autres. Et là, vous avez l'impression qu'il y a la planète techno et des professeurs qui est d'un côté et puis les autres qui sont sur une autre planète. Et les deux ne se parlent pas, c'est dommage.
Ces annonces-là apaiseront-elles la colère de la rue ? Il y a 6 jours, des cortèges défilaient dans Paris. Aujourd'hui, ces employés d'un hôpital niçois suivent attentivement l'allocution du Premier ministre. Cette aide-soignante est déçue. Elle espérait une augmentation pure et simple.
J'ai un salaire qui est gelé depuis X années, 1640 euros. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a tout qui augmente ici. Donc, ce n'est pas normal. Je veux dire, pourquoi en Ile-de-France, à Paris et compagnie, et nous, non.
Mais l'une des annonces les plus importantes du gouvernement concerne sans doute la dette des hôpitaux publics. En 2017, elle s'élevait à 30 milliards d'euros. Le gouvernement promet une reprise d'un tiers de la dette, soit 10 milliards d'euros sur 3 ans. Pour les députés d'opposition, ce plan d'urgence arrive tout simplement trop tard.
Je crois malheureusement que le gouvernement a eu trop de retard à l'allumage, trop d'imprécisions, trop d'amateurisme sur ce sujet pour qu'on puisse colmater les brèches comme cela.
Ce plan, qui est un plan uniquement de soins palliatifs, finalement, ça n'est pas un traitement médical. C'est une grosse dose de morphine.
Côté Rassemblement national, on estime que les annonces ne vont pas assez loin.
Nous attendions des objectifs clairs et ambitieux sur le nombre de réouvertures de lits et sur le déficit d'attractivité du public par rapport au privé que les timides hausses de rémunération proposées aujourd'hui ne permettront pas de combler.
Et malgré les annonces, les syndicats hospitaliers l'assurent. Ils seront bien dans la rue le 5 décembre prochain, avec notamment dans leur viseur la réforme des retraites voulue par le gouvernement.
Il y a déjà un mouvement qui est prévu, hein, fin novembre, on verra s'il est d'ampleur et si ce plan suffit à calmer la colère dans le monde hospitalier. Cette question, reprendre une partie de la dette des hôpitaux, n'est-ce pas les encourager dans leur mauvaise gestion?
C'est aussi pour ça que le gouvernement a tant hésité à le faire. Hein. Il y a encore 10 jours, Bercy disait « il n'en est pas question, c'est la prime aux mauvais élèves, finalement ». Et puis ça va donner des idées à d'autres établissements qui pourraient laisser filer les déficits. Bon, finalement, c'est ce qui est décidé. C'est quand même décidé sous condition, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore, il n'y a pas de précision sur quels seront les établissements qui pourront bénéficier de cette reprise. Et les établissements, donc c'est certainement les plus endettés, mais devront montrer un projet, montrer que c'est bien parce qu'ils vont refaire un bâtiment vétuste, parce qu'ils vont investir dans un bloc opératoire. Il faut que ça soit soumis, quand même, il y aura une forme de contrôle. En tout cas, c'est ce qui est annoncé aujourd'hui.
À quoi ça sert, juste Philippe de Sertine, par rapport aux revendications qui se sont exprimées pendant ces derniers mois, où on voulait vraiment des moyens effectifs tout de suite, reprendre la dette d'un hôpital? Qu'est-ce que ça change dans la gestion d'un établissement hospitalier?
En réalité, c'est vrai qu'on n'est pas totalement sûr que là, ce soit dans la réponse au malaise. Je crois vraiment que depuis longtemps, on a mis en exergue le fait que les hôpitaux, à un moment donné, ont eu l'autonomie pour véritablement s'endetter. Et ils se sont endettés beaucoup, notamment pour faire de l'investissement. Il y a eu des grandes vagues, 2007-2012, avec de très très forts investissements, donc d'énormes dettes, des dettes qui ont été contractées souvent, donc hôpital par hôpital, avec des mécanismes qui étaient vraiment des mécanismes de marché financier et qui étaient loin d'être toujours, quand on les regardait a posteriori, comme étant finalement les meilleures solutions. C'est-à-dire que ça coûtait très très cher, ça a complètement amputé les budgets des hôpitaux, qui du coup réduisaient leurs effectifs, enfin étaient avec des réductions de charges.
Juste c'était des investissements pour la recherche, pour des équipements.
Oui, surtout pour les équipements, pour les équipements du quotidien. Pour la recherche, c'est encore autre chose. Donc là, on est effectivement avec quelque chose qui était souligné depuis longtemps en disant, là, c'est dangereux, et surtout à partir de 2012, 2013, 2014, il y a eu un laxisme laissé par Bercy en disant, on contrôle beaucoup moins les endettements des hôpitaux parce qu'on sait qu'il y en a besoin. Sauf que là, c'est arrivé très très rapidement comme devenir quelque chose pratiquement d'ingérable, qui coûtait de plus en plus cher et sur lesquels manifestement les hôpitaux n'arrivaient plus à s'en sortir. Et donc ça fait plusieurs années, je le répète, la Cour des comptes a fait rapport sur rapport en disant il n'y a pas de solution à laisser la dette à l'intérieur des établissements, ils ne vont pas s'en sortir, et s'ils s'en sortent, ça va être au prix d'économies tellement fortes sur le fonctionnement qu'on va avoir des gros dysfonctionnements dans ce qui est la mission de service public, c'est soigner les gens, c'est pas rembourser la dette, c'est soigner les gens. Et donc la reprise là, c'était quelque chose de toute façon qui tournait. Mais vous voyez, vous le dites dans les titres, on dit c'est spectaculaire, ils prennent 10 milliards. Non, non, donc il n'y a pas 10 milliards d'investissement. C'est juste 10 milliards de dettes qui, au lieu d'être gérées, remboursées par les hôpitaux, eux-mêmes, par les établissements, vont l'être par l'État. C'est juste ça. C'est-à-dire, effectivement, ça change un peu tout en termes de compte, c'est-à-dire c'est le contribuable qui paye directement.
Mais enfin,
de toute façon, l'hôpital, il a des ressources, vous voyez, qui proviennent de ressources publiques. Donc, quoi qu'il en soit, on est quand même avec simplement...
Ça, c'est juste, Philippe de Sertine, que ça a l'air facile. Il y avait 30 milliards de dettes des hôpitaux français. Le coût de la dette... était supporté. Et c'était hôpital 840 millions par an. Donc c'était trop lourd et il n'y a plus de marge de manœuvre. Et on dit, vous avez raison de le rappeler tout à l'heure, Fanny Guinochet, il y a quelques mois, c'est évidemment inconcevable qu'on éponge une partie de la dette des hôpitaux. Et là, ça a l'air de se faire assez facilement. Et on dit, au final, 10 milliards, ce n'est pas grand-chose. Bah, reprenons les 30.
Oui, oui. Non, mais d'ailleurs, pourquoi pas. Oui, mais d'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi pas en réalité, là, ce qu'on voit, ça a été plutôt la faillite d'une politique de très long terme dont on a depuis longtemps souligné les dangers et les conséquences négatives en termes de gestion de l'hôpital en disant avoir laissé et l'investissement et le financement à l'intérieur de l'hôpital, ça ne marche pas. Et donc, effectivement, là, on a cette annonce spectaculaire, mais qui, à la limite, a un temps léger décalage par rapport au problème, parce que ce n'est pas 10 milliards qui vont arriver dans l'hôpital, ce n'est pas 10 milliards d'investissements, c'est juste une structure qui ne marchait pas dans laquelle on va dire à l'hôpital, maintenant, c'est plus vous qui vous occupez du.
Mais est-ce que ça veut dire que ça leur redonne des marges de manœuvre ou pas?
C'est une vraie question, parce que vous pourriez très bien dire à ce moment-là, je raccourcis l'enveloppe qui vous est allouée chaque année, puisque dans l'enveloppe, il y avait normalement le fait que vous deviez vous débrouiller sur votre dette par vous-même. Donc on ne sait pas du tout, après, techniquement, ce que ça peut signifier. Pardon.
Mathieu Plamont. Oui, non. Alors, en tout cas, effectivement, il faut regarder hôpital par hôpital, mais globalement, vous l'avez dit, c'est 850 millions d'euros de remboursement, donc de charges d'intérêt sur les 30 milliards. Donc, si vous en enlevez un tiers, globalement, vous avez à peu près 300 millions de marge de manœuvre, globalement, pour les hôpitaux. Après, il faut connaître la répartition. La question qui est intéressante, qui est différente de celle de la SNCF, c'est que la dette...
Il faut juste rappeler que l'État avait repris partie de la dette de la SNCF, 35 milliards.
Exactement, ce qui augmentait la dette publique. Or, là, ça augmente pas la dette publique. La dette des hôpitaux est dans la dette publique. Quand on parle de 98,9% du PIB... pas loin de 100%, les hôpitaux sont déjà dans la dette publique. Ce n'est pas que la dette de l'État, c'est la dette des administrations publiques. Donc en fait, ce qui est intéressant dans cette opération, c'est que l'État, qui s'endette à des taux aujourd'hui à zéro, a des conditions de marché qui sont plus intéressantes que les hôpitaux qui s'endettent à des taux à 2%. Donc en fait, ça ne change rien sur la dette, c'est qui porte la dette. Mais par contre, sur le remboursement, l'État aura moins à rembourser que les hôpitaux. La question qui se pose après, c'est effectivement l'aléa de qui va bénéficier de ça. C'est, par exemple, si on avait dit 30 milliards... La question est-ce que finalement, on n'ouvre pas les vannes à justement de l'endettement qui serait perpétuellement repris par l'État? Mais d'un point de vue purement comptable, bien sûr que l'opération, il faut la faire. C'est même intéressant pour les finances publiques françaises, c'est qu'on va diminuer la charge d'intérêt globale. Aujourd'hui, les hôpitaux s'endettent à des taux qui sont supérieurs à celui que fait l'État. Et donc, il y a une certaine logique à ce mécanisme qui va développer, alors effectivement pas 10 milliards, mais là, on libère quand même, juste par une opération financière, 250 millions d'euros. C'est-à-dire que le contribuable ne mettra pas plus d'argent là-dessus.
Pourquoi on ne l'a pas fait avant?
Ben parce que je pense qu'il y a l'autonomie de gestion des hôpitaux qui se pose, il y a le problème que certains ont mieux géré leur budget que d'autres et que donc, effectivement, si on reprend la dette de certains hôpitaux, on va dire, bah oui, on a repris celle-là, donc pourquoi faire tant d'efforts si on sait que l'État va être finalement le dernier prêteur en dernier ressort et va récupérer cette dette. Donc je pense qu'il y a toute cette problématique, mais à la fin, c'est l'État qui assure les hôpitaux. En fait, c'est l'État qui fait qu'il n'y aura pas de faillite des hôpitaux. Donc, il y a une certaine logique à récupérer sa dette. Après, en mettant une régulation autour de ça sur le fonctionnement des hôpitaux.
Ça veut dire que l'État reprend la main sur la gestion des hôpitaux?
Oui, en partie, je pense. C'est-à-dire que la contrepartie de ça, c'est les économies qui peuvent être faites sur les charges d'intérêt. C'est-à-dire les hôpitaux vont moins rembourser de dettes, devront être fléchés vers de l'investissement qui seront, à mon avis, contrôlés par l'État.
Juste pour que les choses soient bien claires, cette opération financière... vertueuse, c'est ce que vous nous dites, parce que les taux sont bas, c'est le contribuable à la fin, ou vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très clair sur... avant, c'était les hôpitaux, maintenant, c'est les contribuables?
Oui, mais de toute façon, l'hôpital, c'est le contribuable.
Donc, c'est la même chose.
Oui, c'est la même chose. D'accord. C'est juste qu'on a changé l'endroit où la dette était portée.
On passe la dette d'une poche à l'autre, mais elle reste toujours la dette de l'État et des administrations publiques. Donc, au fond, ça permet d'afficher des chiffres élevés de soutien à l'hôpital en dépensant pas grand-chose. Donc ça, c'est une chose. Ce qui manque, c'est, imaginons qu'on soit face à des hôpitaux privés qui soient surendettés et qui ne puissent plus rembourser leurs dettes. Mais qu'est-ce qu'on ferait? On viendrait les voir, on restructurerait leurs dettes et probablement on changerait la manière dont ils sont gérés, on mettrait un autre gestionnaire et on leur demanderait d'expliquer comment ils vont faire pour fonctionner sans recreuser la dette. C'est-à-dire que sans leur dette, mais avec un nouveau plan de fonctionnement qui permette de mieux fonctionner sans recréer cette dette. Et donc la question maintenant, c'est celle-là. C'est est-ce qu'on va réussir à faire fonctionner l'hôpital sans recréer de nouveau de la dette?
Puisque visiblement il y a des marges de manœuvre, pourquoi ne pas jouer sur les rémunérations? Il y a le choix des primes, on l'a dit tout à l'heure, hein, primes, il y a différents types de primes. Il y aura des primes au mérite avec une enveloppe qui sera allouée aux hôpitaux. Ils pourront récompenser d'une certaine manière les gens les plus engagés dans les hôpitaux publics. Il y a aussi des primes pour aider une partie des personnels qui ont du mal à se loger, on l'a dit précisément en Ile-de-France. Pourquoi les primes plutôt que les rémunérations?
Parce que là, pour le coup, alors là, on est vraiment dans les finances publiques et dans la question du déficit.
Alors
parce que là, c'est un des éléments qui est le plus contrôlé du point de vue de l'État quand il dit « je veux essayer quand même de ne pas avoir un dérapage trop fort de mes finances publiques ». Il ne faut quand même pas oublier, même si Emmanuel Macron a dit que 3% c'était des règles d'un autre siècle, la France est à 3,1% de déficit. Donc extrêmement, extrêmement regardé par les Européens. L'ensemble de l'Europe, France comprise, est à 0,5% de déficit.
On a eu un petit rappel à l'ordre aujourd'hui même.
Oui, mais tout petit, franchement, hein, par rapport au dérapage. Même. Oui, non, c'est pas négligeable. Il est évident, là, par rapport à cela, que ça, ce serait très malvenu de dire « ah oui, bah donc on va lâcher la bride du point de vue des finances publiques, et en particulier de cet élément particulièrement très sensible, qui est, on va dire, la rémunération du point de vue de l'ensemble de la fonction publique. » Donc là, du coup, bah voilà, on dit la prime, c'est un one-shot, en quelque sorte. C'est un one-shot qui peut être reconduit, mais quand même, qui va pas... Notamment, par exemple, qui ne sera pas réintégré dans le calcul des retraites. Enfin, dans tous les éléments comme ça, qu'on va essayer... d'avoir une sorte, on va dire, d'atténuation de la tension sociale et malgré tout, quand même, garder l'œil parce qu'on a beau dire qu'on s'en fiche des 3%, on sait bien quand même que ça, c'est dangereux, que le niveau de dette, comme disait Mathieu Plane tout à l'heure, on est très, très haut et que le moindre dérapage pourrait devenir très, très dangereux pour les finances publiques à moyen terme.
Et on y reviendra sur la dette plus généralement.
Oui, il y a une question qui est quand même aussi intéressante, c'est qu'il faut savoir qu'Emmanuel Macron a fait des baisses d'impôts qui n'étaient pas prévues initialement. C'est-à-dire qu'il y a quand même les mesures d'urgence gilets jaunes, plus issues du grand débat, il y a 17 milliards qui n'étaient pas initialement budgétés. Alors, il bénéficie effectivement de conditions financières très intéressantes, mais
et l'autre partie... Et c'est pour partie... ça qu'on arrive à tenir le budget, juste c'est parce
en partie,
qu'il y a des taux bas.
Oui, bien sûr. Alors, il y a une dérive par rapport à ce qui était initialement prévu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en face... c'était des économies supplémentaires, des économies sur les dépenses structurelles. Et il y avait une forte contribution des dépenses de santé, y compris les retraites. Et là, on voit qu'on tape dans le dur et que les Français ont compris que ces économies-là, elles étaient difficiles à faire.
On va en parler précisément des retraites, parce que c'est la mauvaise nouvelle hein, du dernier rapport du COR. Mais quand même un mot sur ce qui nous attend et ce qui attend précisément le gouvernement, c'est-à-dire le 5 décembre. Je voyais en préparant cette émission que un des syndicats de police menace de se joindre à la mobilisation du 5 et demande... un statut particulier sur la question des retraites. On se dit, ça va coûter cher le 5 décembre.
Il y a des chances, enfin, il faut voir. Alors, il y a le 5 et puis surtout la suite, le 5, 6, 7, parce que c'est une grève interprofessionnelle qui est reconductible. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait des mouvements très suivis dans les transports. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, ce plan hôpital, il arrive à un moment, le 5 décembre, est vraiment en toile de fond, parce que la grande crainte du gouvernement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la coagulation, c'est en tout cas la convergence des colères. Peut-être pas des luttes, mais en tout cas des colères, et que... Allez, avec ce mouvement du 5 décembre, soit les étudiants, les enseignants, les policiers. Et donc, actuellement, le gouvernement sait que sur la question des transports, il risque le mouvement va être suivi. Donc, il essaye de faire en sorte que dans les autres mouvements, ça soit un peu apaisé, ou
et
en tout cas, ça soit un peu calmé.
Et ça se passe en obtenant des arbitrages, notamment, on pense à la prime dont on vient de parler à l'instant, mais il y a aussi eu d'autres... prime, il y a eu sur l'histoire des heures supplémentaires dans la police.
On voit bien qu'actuellement, le gouvernement fait des gestes à tout un tas de professions, de tout un tas de catégories de Français pour éviter que le 5 décembre, ça soit, y ait vraiment une convergence. Alors, sachant que les primes, c'est exactement comme dans le privé. Hein, quand vous allez voir votre employeur, vous lui demandez une augmentation, en général, soit il dit oui, bon là, tant mieux, vous êtes chanceux, soit il vous dit je te donne une prime, parce que c'est une fois, et qui se dit, le coup d'après, je la donnerai à quelqu'un d'autre. Alors qu'une augmentation de salaire, vous l'inscrivez, c'est continu.
Alors, au chapitre des finances publiques, une autre difficulté s'annonce pour le gouvernement. Le dernier rapport du COR qui prévoit entre 8 et 17 milliards de déficit du régime des retraites en 2025. Alors, avant même la grande réforme, il va falloir trancher. Au Portugal, vous allez le voir, la méthode a été assez radicale. Pour tenter de mettre les comptes des retraites dans le vert, chaque année, l'âge de départ est repoussé. Reportage Mélanie Nunes, Ariane Morisson.
On met d'abord les nappes comme ça. Ici, c'est votre table.
11 heures de service tous les jours. Une cadence que ce retraité mène depuis 50 ans. Voici votre entrée.
Homme signe. Boucher, chef. Si, si.
Oui, il faut rester concentré, sinon...
À 67 ans, Joachim pourrait prendre sa retraite. Mais avec 600 euros par mois de pension, impossible de s'arrêter de travailler.
Ce serait plus simple si c'était un peu plus calme. À la fin de la journée, c'est très fatigant. C'est beaucoup de travail.
Dans ce restaurant, il gagne 900 euros par mois, le seul salaire pour toute une famille.
J'ai un petit-fils, ma femme et puis aussi deux enfants. Nous sommes cinq. Je travaillerai jusqu'à ce que je puisse le faire, jusqu'à ce que mon corps me le permette. Avec la petite retraite qu'il me donne, je ne peux pas survivre.
À 30 ans, son collègue ne s'imagine pas à sa place dans quelques années.
Voir un homme comme Joachim travailler, comme ça, à son âge, ça m'impressionne beaucoup. La force qu'il a, il en faut du courage. Moi, je n'arriverai sans doute pas à faire comme lui. On enrichit le gouvernement. C'est nous, les esclaves, qui travaillons pour les grands qui peuvent se payer de belles voitures. Vous avez combien de voitures, Joachim ?
Une. En mauvais état.
Une, et pour toute la vie.
Le seul espoir de ce trentenaire, partir dans un autre pays pour de meilleures conditions de travail. Au Portugal, un retraité gagne en moyenne 397 euros net, contre 1070 euros pour les Français. Une personne sur trois a plus de 65 ans, pas assez d'actifs pour équilibrer les dépenses publiques. L'âge du départ à la retraite a encore reculé. En 2013, il était de 65 ans. Aujourd'hui, 66 ans et 5 mois. En 2038, ce sera plus de 68 ans.
Au Portugal, l'espérance de vie est la plus faible de toute l'Europe. Ici, quelqu'un qui a plus de 50 ans risque d'avoir des maladies chroniques beaucoup plus tôt que dans les autres pays. Le gouvernement doit aujourd'hui se soucier de la santé de ses travailleurs. Cela lui permettra d'augmenter leur capacité de travail sur la durée. Ces personnes âgées pourront de leur côté profiter plus longtemps après la retraite.
Au nord du pays, près de Porto, les chalutiers rentrent au port pour vendre leur pêche. Il est 15 heures, l'équipage a passé plus de 19 heures en mer. Francisco est un ancien pêcheur de 65 ans. Il a pris une retraite anticipée et vient saluer ses anciens collègues.
Et ici, c'est du merlan. Il y a 20-30 kilos.
Mais tous ces pêcheurs ne peuvent pas se le permettre.
Ils sont 1, 2, 3, 4, 5 à avoir l'âge d'être à la retraite.
Contrairement à la France, la pénibilité du travail de pêcheur n'est pas prise en compte dans le système des retraites.
Moi, ma retraite est à 480 euros par mois. J'ai été marin et finalement patron. Le problème, c'est qu'on ne cotisait pas pour les jours passés en mer. Seuls les jours où vous déchargez le poisson comptent pour la retraite.
Plusieurs partis politiques ont demandé au gouvernement d'adapter l'âge de départ à la retraite à certaines professions jugées difficiles. Malgré tous ces efforts, le système des retraites au Portugal n'a pas encore atteint son équilibre.
On va rassurer les gens qui nous regardent, ce ne sera pas le modèle français. Même si on va peut-être, le gouvernement va peut-être demander davantage d'efforts, on va y revenir. Le modèle portugais, il est extrêmement raide.
Oui, il y en a d'autres en Europe, hein. Faut vraiment avoir conscience. On parle de l'Union européenne, c'est-à-dire nos partenaires. On parle d'ailleurs d'un endroit où, entre parenthèses, au Portugal, vous avez des retraités français qui vont s'installer parce que vous avez des défiscalisations par rapport à ici. Donc, non, c'est évidemment quelque chose qui doit nous frapper parce que lorsque vous êtes en déséquilibre, la solution de dire, mais lâchons tout, de toute façon, il n'y a pas de problème, hein, quoi qu'il en soit, on s'endette à taux négatif, mais tout va bien. Il y a un moment donné où la réalité vous rattrape. Et je pense qu'effectivement, le Portugal peut être quand même un rappel à ce type d'illustration.
Alors, ce rapport du Conseil d'orientation des retraites, je me mets à la place des gens qui nous regardent, à qui on a dit, bon, il n'y aura pas de réforme financière, tout va bien, les comptes sont à l'équilibre. Et puis, à un mois, même moins, d'un projet de loi sur les retraites, on explique qu'il va falloir faire une réforme financière. C'est une mauvaise surprise, mais ce n'était pas anticipable.
Si, c'était anticipable. Alors après, à la décharge du gouvernement, le rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, c'était aussi, il y a 2 ans, beaucoup trompé. Ou en tout cas, bon, il nous annonçait que c'était à peu près à l'équilibre. Et puis quand l'équipe actuelle est arrivée, en fait, il manquait 9 milliards d'euros. Bon, mais
c'est... Une paille, comme on dit.
Voilà, une bagatelle. Mais c'est vrai qu'on savait par rapport... Enfin, les prévisions qui ont été sorties là, c'est ni plus ni moins les prévisions qu'il y avait au mois de juin de ce même organisme, hein, qui est un organisme où il y a des partenaires sociaux, des experts, tout un tas de représentants qui travaillent sur les retraites. Et c'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle parce que, alors 17 milliards, on entend entre 8 et 17 oui, milliards d'euros. 17 milliards d'euros, c'est la fourchette la plus extrême. Ça serait plutôt, d'après un certain nombre d'économistes, entre 8 et 10 milliards, ce qui est quand même beaucoup, et qui montre que en 2025, c'est ce qui manquera sur les comptes. Or, on a un président de la République qui a dit « on va faire une réforme des retraites en 2025 et pour faire cette réforme des retraites, il faut que les comptes soient dans le vert ». Alors là, effectivement, ça veut dire qu'il faut prendre des mesures avant 2025, c'est-à-dire demain. Et alors, quel type de mesures ? Est-ce que c'est demander aux gens de travailler plus longtemps, c'est-à-dire d'augmenter la durée de cotisation, ce qui était déjà dans les tuyaux, mais d'accélérer encore le nombre de trimestres qu'on va demander aux Français avant de pouvoir partir à la retraite avec une pension complète ? Toucher à l'âge, c'est-à-dire décaler l'âge de la retraite, là, on voyait, c'était 68 ans quasiment pour les Portugais. Non, aujourd'hui, c'est 62 ans, l'âge légal aujourd'hui, ou est-ce que c'est faire baisser les pensions des retraités? On voit ce qui s'est passé.
C'est la question que nous posait Yves dans les Yvelines, pardon, je vous ai coupé, mais il dit, commence-t-on à nous préparer à une baisse du montant de nos retraites?
Bah alors là, vu le nombre de retraités qu'il y avait sur les ronds-points l'année dernière au moment des Gilets jaunes, je souhaite bon courage à ce gouvernement qui vient de réindexer les pensions d'ailleurs, pour venir expliquer aux Français qu'ils vont baisser les pensions des retraités. Je pense que ce n'est pas le scénario. Alors, c'est vrai qu'on regarde les pistes, et les pistes, eh bien, on se dit, politiquement, c'est intenable. Économiquement, c'est intenable, et politiquement, bah, c'est presque suicidaire dans un moment où le gouvernement essaye, un an après les Gilets jaunes, de retrouver un peu de souffle, et puis il y a les municipales qui arrivent. Donc, c'est une équation insoluble aujourd'hui pour Édouard Philippe et Emmanuel Macron.
Sophie Fay. Insoluble, mais il va quand même falloir trouver un point de passage.
Il va falloir trouver un point de passage, mais il faudrait peut-être rappeler quand même qu'on a pas mal de chance en France. Hein. Comme le disait Fanny Guinochet, on est à 62 ans en Allemagne. Et ce problème de la situation des systèmes de retraite, il est général dans toute l'Europe. Donc on l'a vu au Portugal, mais en Allemagne, ils sont en train de discuter de repousser l'âge de la retraite. Ils étaient déjà à 67 ans. Ils parlent maintenant de 69 à 70 ans. Donc le problème est partout. Et donc, je me souviens quand il y avait eu la crise en Irlande et qu'on allait en reportage là-bas, les Irlandais nous disaient, vous êtes formidables les Français, nous on s'est laissé faire, on a laissé baisser les pensions, on a laissé les impôts augmenter, on a laissé le gouvernement imposer l'austérité, vous au moins vous êtes dans la rue, vous vous défendez, donc il faut aussi qu'on n'oublie pas qu'on se défend pour un bon système et qu'on a quand même un bon système. C'est la même chose sur le système de santé. Il a été reconnu par l'OCDE qu'il était quand même un des meilleurs au monde, même s'il a des défauts, même s'il coûte cher. Donc, bon, voilà, il faut peut-être rappeler qu'on va faire des réformes, mais qu'on part d'un niveau, même si individuellement, on peut le trouver pas toujours suffisant parce qu'on se compare à nos voisins en France, mais au niveau européen,
ce qui est compliqué, Sophie Fay, c'est encore une fois, mettons-nous à la place des gens qui suivent attentivement des campagnes électorales et puis on leur dit, de toute façon, on ne touchera pas à l'âge, de toute façon, on n'a pas besoin de réformes financières. Et puis 6 mois après, on leur dit, oups, on s'est trompé, il manque 10 milliards et il va falloir travailler davantage. Est-ce que ce n'est pas ça, au fond, le problème ? C'est le manque de, on parlait de lisibilité, de stratégie pour l'hôpital. Est-ce que, sur la question des retraites, ce n'est pas ça ? Chaque année, on dit, ce ne sera pas 42 annuités mais ce sera un peu plus, alors, ce sera pas 62, ce sera un peu plus. Et est-ce qu'on peut faire autrement ? Ou est-ce que le gouvernement est obligé de naviguer comme ça ?
Alors, je crois que c'est difficile de faire autrement. Surtout, il y a quand même une vision de long terme. C'est ce qu'apporte le Conseil d'orientation des retraites, c'est qu'ils font des projections de moyen long terme. Ils vont même jusqu'en 2070. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'aléas macroéconomiques. Typiquement, en 2009, il y a eu un choc financier majeur qui a creusé les déficits. Là, ça dépend beaucoup du scénario qu'on a sur la productivité et la croissance, par exemple, hein, qui dépend de l'évolution des salaires. Donc tout ça, il y a des paramètres qui ne sont pas maîtrisés.
Ça veut dire
donc,
qu'on est obligé d'ajuster tout le temps.
On est obligé d'ajuster, c'est-à-dire ça dépend de la dynamique sur le marché du travail, des cotisations et donc du retour ou pas au plein emploi. C'est pour ça qu'il y a 2 ans, typiquement, le COR disait qu'on serait à l'équilibre financier en 2025. Alors là, le COR dit finalement on sera plutôt entre 8 et 17 milliards. Mais ça, c'est le scénario central parce qu'il y a des fourchettes, on ne les a pas encore. Hein. On ne les a pas. Et il dit le COR aussi que normalement, on devrait retrouver des excédents au-delà de 2030. La question qui est importante, c'est qu'on a quand même, moi je pense, quelques atouts, et notamment le système de santé, on en a parlé, mais on a un deuxième atout, c'est notre démographie quand même. Ce qu'on ne dit pas, c'est que l'Allemagne n'a pas du tout la démographie française, les Portugais n'ont pas du tout la démographie française. On a gardé l'indice de fécondité le plus élevé d'Europe. Nous, le problème, c'est d'insérer les jeunes sur le marché du travail. L'avantage, c'est qu'on a encore des actifs qui rentrent sur le marché du travail et on a un peu moins de retraités qui sortent ailleurs. Donc, on n'a pas besoin de travailler autant qu'ailleurs. La question, c'est l'équilibre financier de ces régimes de retraite. C'est vrai qu'à long terme, il y a un gap qui n'est pas comblé. Hein, on parle des 8 milliards. Mais au fond, c'est pas massif. C'est pas massif, surtout que si vous regardez les choses, il y a normalement dans les prévisions le fait que le chômage dans ces prévisions baisse. Donc, les économies sur l'Unédic, l'Unédic en 2025 doit faire des excédents de 8 milliards dans les prévisions, qui pourraient être rebasculés pour financer l'assurance chômage. Là, aujourd'hui, par exemple, sur les mesures gilets jaunes, les défiscalisations des heures sup n'ont pas été compensées sur les régimes de retraite. Quand vous mettez ça bout à bout, vous voyez que, en fait, le déséquilibre n'est pas énorme. Et pour juste en finir, je pense que, en fait, l'enjeu, il est politique. Il est politique parce que là, on superpose deux choses. Une ambition qui est plutôt louable, qui est de dire il faut changer le régime, passer à un régime universel, c'est plus simple, c'est mieux, ça prendra peut-être une génération. Là, on est en train de la torpiller par des histoires d'équilibre financier, parce que les gens vont dire « Bah oui, mais en fait, moi, je vais peut-être avoir moins de pension. Oui, moi, mes cotisations vont peut-être augmenter. Oui, finalement, on m'avait dit que je travaillerais jusqu'à 62 ans, ça va être plutôt 63 ou 64. » Et donc, rentrer dans cette réforme en disant « En fait, je vais faire une réforme structurelle d'ampleur où il y aura quand même des transferts importants sur les régimes spéciaux, etc. » Est-ce que ça va donner confiance aux gens sur la réforme
juste les gens, je pense, n'y comprennent plus rien.
Mais non, mais du coup,
est-ce qu'on est sur la réforme structurelle d'ampleur
Met deux débats, on a mis une brique. Ouais. Le débat était est-ce qu'on doit un régime universel? Là, aujourd'hui, on est en train de parler des équilibres financiers. Ce n'est pas une réforme, les équilibres financiers, c'est changer des paramètres.
Ouais. Oui, mais si je peux me permettre, je crois que quand Mathieu Plain dit oui, c'est tenable, c'est-à-dire que tout est tenable en France, sauf que quand vous rassemblez tout,
Alors, combien ça fait?
Mais oui, mais c'est ça le problème.
99,6% du PIB.
Oui, on est d'accord. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là. Non, mais vous vous rendez compte qu'à la fin, en fait, c'est pas tenable. Et là, quand on est en train de dire oui, peut-être ça peut marcher, etc., je suis désolé. La France qui dit nous, on va pas travailler parce qu'on a de la démographie, mais on a quand même le taux de chômage le plus élevé d'Europe, donc enfin, hormis l'Espagne et l'Italie. Mais ça veut dire qu'en réalité, il va falloir que les gens soient dans le travail. Oui, mais ils viennent pas. Ah, mais on a prévu qu'ils y arrivent. Oui, d'accord, mais tu fais comment? C'est-à-dire, comment tu les trouves à la fin les milliards? Alors donc, c'est simple, on s'endette. C'est-à-dire, là, vous avez la dette supplémentaire.
Mais tout le monde le fait.
Non, nous, on le fait. Je vous rappelle que la dette en Europe, elle baisse. La dette en Europe baisse. Nous, effectivement, les Français, on est les seuls. Mais quand je dis ça en Europe, c'est important parce que ça, c'est une des causes de vulnérabilité de l'Europe de demain. Quand je dis de demain, c'est-à-dire peut-être dès le Brexit. Parce que la France est le maillon faible par rapport à cela. En disant, si jamais vous avez la montée des taux, ils ne monteront pas. Oui, tiens, et si tu as le pétrolier qui barre le métroit d'Hormuz, que tu as la matière première qui augmente et que les taux montent, tout le monde se tourne vers la France en disant, ah oui, c'est mais nous, là, les retraites, là, ce n'est pas 2030 l'excédent, c'est tout de suite qu'il faudrait. Et là, effectivement.
Et pourtant, on a un débat, Philippe de Sertine, avec un président de la République, vous l'avez rappelé, qui dit bon, les 3%, c'est obsolète, c'est du siècle dernier. Et on se tourne vers les Allemands en leur disant mais allez-y, investissez, profitez de ce moment où ben, on peut, au final, gagner de l'argent en empruntant.
Mais c'est ce que nous a dit Angela Merkel un jour en France, en disant oui, nous, on va commencer à faire quand on aura économisé avant. C'est-à-dire, ils sont en excédent budgétaire. On leur dit ben, peut-être maintenant, vous pouvez dépenser un peu plus. Oui. Attention, parce qu'ils pourraient décider de faire des grosses baisses d'impôts. Et là, nous, on ne peut pas le faire, ça. Là, on va dire, oh là là, mais il faudrait un impôt unifié en Europe, tous comme la France. Mmh. C'est vers ça qu'on va. Il faut être très clair par rapport à la dette. Vous avez deux solutions pour qu'on arrive à la payer. Soit c'est l'impôt, et donc ça, la France est championne du monde pour ça, on a les plus hauts prélèvements obligatoires du monde. Soit ce sera un jour taper sur l'épargne. C'est l'un ou l'autre. Vous n'avez pas 36
taper
solutions.
Taper sur l'épargne, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que quand vous dites on ne va pas payer la dette, vous savez, souvent c'est le grand terme. Il y a eu des termes comme ça pendant la campagne présidentielle française. On ne rembourse pas la dette, ok? On ne la rembourse pas à qui? À ceux qui la détiennent. Et ceux qui la détiennent, ce sont les épargnants français en ce qui concerne.
C'est les créanciers à l'étranger?
Oui, les créanciers, ceux-là, on les paiera, parce que ceux-là, on aura besoin de renouveler. C'est d'abord les épargnants français. C'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire, les Français, il faut qu'ils se rendent compte qu'à un moment donné, il n'y a pas de baguette magique. On dit, on va faire de la dette. Dire, on proteste, on nous donne de l'argent. De toute façon, le déficit va filer. Le président a dit maintenant, 3%, c'est plus une règle. On peut aller à 6. Il est le seul à dire ça. Super que ce soit la France qui dise ça. C'est embêtant quand vous êtes à 3-1 de dire 3%, c'est plus la bonne règle. Que les Allemands leur disent maintenant, peut-être vous allez pouvoir dépenser plus, ce serait pas idiot. Mais là, on est dans cette situation et je crois que les mauvaises nouvelles qui tombent et en même temps les revendications qui montent et en même temps le déficit, et là, comme dit Mathieu Plane, oui, il peut y avoir peut-être un léger problème qui arrive à l'horizon. C'est-à-dire s'il y a un problème sur la sphère financière, que tout d'un coup on a une tension et que les taux remontent alors qu'on a prévu qu'ils étaient comme ça pendant 25 ans, là, tout d'un coup, on va se réveiller, mais vraiment avec une grosse gueule de bois.
nous, on va se réveiller. Enfin, nous, c'est vrai oui. que le scénario est un peu cataclysmique,
non, mais quand même, quoi,
230 000 milliards de dettes au niveau mondial. On n'est pas les seuls à faire de la dette.
255 000 milliards.
Allez, 255 000, allons-y. Les Américains font de la dette ?
Oui, absolument.
Mais eux, ils ont le dollar ?
Oui, ils ont le dollar, c'est-à-dire qu'ils sont payés par le reste du monde. Bon, okay. Jusqu'au moment, d'ailleurs, où le reste du monde ne voudra pas. La Chine aussi a monté beaucoup sa dette.
Et on n'est pas les seuls. Et
on voit bien que c'est le débat entre la cigale et la fourmi. Hein.
Oui,
c'est vraiment, pour résumer, et c'est aussi un débat qui se fait au sein de l'Europe et au sein du gouvernement aujourd'hui. Est-ce qu'on laisse filer ? Et puis on verra bien, parce qu'on peut se dire qu'on a des scénarios positifs. Ou bien alors, est-ce qu'on engrange pour essayer de redonner du souffle et parce qu'on se dit qu'à un moment, l'hiver va être dur.
Et il est de quel côté, le président de la République ?
Jusqu'à présent, c'était très rigoureux. C'était, il faut tenir les 3% de déficit, il faut essayer de juguler, d'arrêter de dépenser, entre guillemets, que ce soit de la dépense ou de l'investissement, revenir dans les clous. Et puis là, on voit que sous la pression sociale et sous un certain nombre de demandes de différentes catégories, eh bien, finalement, l'orthodoxie financière, elle passe à la trappe. Donc, justement, ça aussi, ça contribue à ce qu'est on n'arrive plus à comprendre ce qui se fait. Votre question, ça résume. Et c'est vrai que sur la réforme des retraites, là aussi, on comprend que les Français soient perdus parce que un jour, on nous dit ça va être une réforme financière et puis un autre jour, on nous dit ah, mais pas du tout, ça va être une réforme. Ce qui prime, c'est la justice sociale. Ah oui, d'accord. Mais en fait, les deux, c'est quand même compliqué à lier. Donc, actuellement, on est perdu.
Et bon, on va aller au troisième reportage, si vous le voulez bien. On continuera, Sophie Fay, notre discussion en France. On parle de la dette. 3075 communes ont une dette au-dessus du seuil d'alerte. Ce sont les chiffres de la Cour des comptes. Nous nous sommes rendus à Bagnolet. C'est l'une des villes de France les plus endettées. 148 millions d'euros pour 36 000 habitants. Forcément, au quotidien, vous allez le voir, les marges de manœuvre sont quasi nulles. Reportage Émilien Daville, Ariane Morisson.
C'est une école ouverte il y a plus d'un siècle. Le groupe scolaire Jules Ferry de Bagnolet subit les affres du temps.
On voyait un peu l'état des boiseries, donc c'est des boiseries très anciennes qui datent de juste après la Deuxième Guerre mondiale. Encore un exemple, un faux plafond qui est dégradé.
Et au sous-sol, c'est la chaufferie qui est à bout de souffle.
On a une fuite sur l'échangeur à plaque.
Ah ouais, non, là c'est...
Ici, tout est à refaire. Coût des travaux, 17 millions d'euros. Mais la ville est surendettée et rénove déjà une autre école. Impossible de mener les deux chantiers de front.
Et celle-là, on ne pourra pas commencer les travaux avant 2022, peut-être 2023, à cause de la situation financière de la ville. Et pendant ce temps-là, les agents de la ville font tout leur possible pour essayer de maintenir l'ensemble en état. Mais vous voyez bien qu'on touche les limites. On est sur un bâtiment qui a 130 ans. À un moment donné, ça ne va pas pouvoir tenir très longtemps dans cet état.
Les investissements de la mairie sont contraints par une dette vertigineuse de 148 millions d'euros pour seulement 36 000 habitants. C'est la troisième ville de France la plus endettée, derrière Levallois-Perret et Briançon. Bagnolet paye aujourd'hui des investissements démesurés, comme cette nouvelle mairie construite par la précédente équipe municipale.
Bah écoutez, cet hôtel de ville a coûté tout compris 38 millions d'euros.
Tony Di Martino est arrivé à la tête de la mairie en 2014. À sa prise de fonction, il a découvert, outre les nombreux emprunts, quelques surprises dans le bilan financier.
Dès 2013, on a avant tout mouvement comptable, les inscriptions de 2012 ont induit un déficit de trésorerie de 17,52 millions d'euros.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il manque 17 millions d'euros dans les caisses. Vous démarrez un mandat plombé et vous ramez constamment tout au cours du mandat pour vous traîner cette situation-là au long des années.
Un trou dans la trésorerie, des factures impayées et des investissements nécessaires non réalisés. Pour s'en sortir, la commune doit emprunter encore plus et alourdir sa dette.
C'est carrément la double peine. C'est qu'on doit rembourser, on doit solder le passé et on doit aussi gérer le quotidien et préparer l'avenir. Donc si je dirais que c'est la triple peine.
En France, selon la Cour des comptes, plus de 3000 communes avaient en 2017 un niveau d'endettement au-dessus du seuil d'alerte. C'est 8,5% des villes du pays. Mais certaines parviennent à s'en sortir, comme ici, à la Chapelle Saint-Luc. Cette ville de 13 000 habitants près de Troyes dans l'Aube a baissé sa dette de 36% en 6 ans. Depuis 2014, la commune mène au quotidien une chasse aux coups acharnée.
Il y avait un troisième globe là-haut, ils l'ont enlevé, ce qui fait que ça fait une ampoule de moins et tout ça, ça fait une facture énergétique qui baisse. C'est tout bête.
Pour le maire, il n'y a pas de petites économies. Même l'usage de la balayeuse municipale a été restreint pour réduire les dépenses de carburant. Dans cette rue, elle ne passe quasiment plus.
Eh ben, y a des services qui vont être un peu moins bien rendus à la population. Mais en même temps, c'est aussi pour ça qu'on a réduit notre dette de 36% en 6 ans. Et donc, il y aura des marges de manœuvre demain. Voilà. Si on n'avait pas fait ça et continué de faire comme avant, on serait dans le mur.
Une somme de petits gestes qui ont permis à la ville de baisser la facture énergétique de 300 000 euros par an. Mais surtout, la commune a réduit sa masse salariale, n'a pas emprunté d'argent ces 6 dernières années et n'a pas réalisé de gros investissements.
Il faut juste assumer de se dire, eh ben voilà, le mandat politique est le mien, c'est pas je vais inaugurer ceci, je vais inaugurer cela, puis vous avez vu comme je suis fort, vous avez vu comme on est intelligent, vous avez vu comme tout ça. Non, c'est un mandat de gestion, c'est un mandat où vous coltinez la réalité comptable d'une ville.
Selon la mairie, la dette de la ville sera à un niveau acceptable d'ici 2 ans, c'est-à-dire à moins de 9 millions d'euros. Les efforts se poursuivent, mais il y a un symbole auquel elle ne veut pas toucher en cette fin d'année, les décorations de Noël.
Là, ça devient très concret. Hein,
ah oui, tout d'un coup. Oui.
D'un coup, le poids de la dette et comment retrouver des marges de manœuvre. Cette question, l'État va-t-il aussi reprendre une partie de la dette des villes les plus endettées? Il pourrait faire ça, comme il le fait pour l'hôpital?
Eh ben, en fait, en tout cas, on n'a jamais vu une collectivité locale faire défaut. Donc, implicitement, c'est pareil. S'il y a une collectivité qui est en difficulté, l'État peut quand même est toujours prêteur en dernier ressort. Donc il peut aménager sa dette, reprendre une partie de la dette. Ça ne veut pas dire qu'il récupère l'ensemble de la dette, mais il y a des possibilités financières.
Là, ce sont des collectivités locales qui reprochent parfois à l'État d'avoir transféré des compétences sans transférer les moyens. Ce on est dans cette problématique-là.
Ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'on a eu vraiment, du point de vue de l'idée qu'il fallait justement essayer quand même à un moment donné de devenir virtueux, l'État qui a dit, bon bah, j'arrête de faire des choses et en fait, je les repousse sur les collectivités locales, à elles de se débrouiller. Mais c'est l'énorme risque, quand je disais l'impôt, évidemment, le risque, c'est qu'on ait une augmentation de l'impôt au niveau de ce qui est possible pour les collectivités locales. Et donc là, on tourne en rond sans cesse en disant on va baisser l'impôt sur le revenu, mais on l'augmente ailleurs parce qu'effectivement, on voit que malgré tout, à un moment donné, il faut faire face à ce niveau de dépenses et ce niveau de dette. Moi, je répète vraiment, l'idée, c'est pas de dire il faut supprimer toute la dette, il faut plus de dépenses publiques. Peut-être les gens disent ah là, ça y est, on est en train de supprimer tout le service public à la française. C'est justement de dire mais non, mais est-ce que l'État doit tout faire? C'est pas possible ce que disait Mathieu Plane tout à l'heure en disant ça, c'est un point important, ça, c'est un point important. Oui, mais ça veut dire donc qu'on fasse des arbitrages. Je pose la question, est-ce que c'est essentiel que l'État finance les entreprises par la BPI? On a un système bancaire, etc. Comment ça se fait que ça prend autant de poids? On va dire, ah oui, mais c'est très important. Quand vous êtes l'entreprise comme bénéficiaire, vous allez dire, c'est très important. Mais on ne peut pas tout faire. À un moment donné, ça fait partie du déficit qui s'accumule. Et ça, c'est le modèle à la française. Alors, le modèle à la française, il tient pour le moment parce que, un, on peut s'endetter, et deux, parce qu'il y a l'euro, il faut le rappeler quand même. Hein, parce que quand vous êtes avec déficit public, déficit du commerce extérieur, croissance faible et chômage, normalement, votre monnaie, elle s'effondre. Nous, notre monnaie, elle ne s'effondre pas. C'est ça l'avantage.
Mais là, nos créanciers, ils ont l'air d'avoir confiance sans nous,
parce
qu'ils
nous prêtent des taux.
Ils nous prêtent des taux.
Ils ont confiance en l'euro.
Très bas.
Non, ils ont confiance. On n'a qu'à voir. On met l'Allemagne à 6% de déficit. Vous allez voir s'ils ont confiance.
Mais non, il n'est pas d'accord, Mathieu Plane.
Non, effectivement, il y a des pays. Bon, la Grèce n'a rien à voir avec la France, d'une part. L'Italie a une situation extrêmement compliquée. Là, pour le coup, l'Italie, il y a un vrai risque. C'est-à-dire qu'ils ont 130 points de PIB de dette, ils n'ont plus de croissance, ils ont un vieillissement extrêmement marqué de leur population, ils n'ont plus de productivité. Il y a un vrai risque sur la dette. Et d'ailleurs, ça a été plus l'aléa politique, parce qu'on n'en parle pas, mais la question politique peut déclencher une crise de la dette.
Bien sûr.
Parce que si imaginez que vous avez une montée des extrêmes et que quelqu'un qui soit élu, qui soit très eurosceptique, décide de sortir de la zone euro. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un run sur les marchés et vous avez un défaut potentiel. Je veux dire, question politique.
Il y a une phrase qu'il va falloir expliquer. Il y a un run sur les marchés. C'est-à-dire qu'on peut avoir. Je vous assure qu'il faut nous aider.
Oui, non. C'est-à-dire qu'on pourra avoir. Imaginons qu'il y a un grand pays de la zone euro, on a vu ce qui s'est passé avec la Grèce, qui décide unilatéralement de sortir de l'euro. Pour différentes raisons, parce que socialement, c'est explosif, etc. Ce qui va se passer, c'est qu'on aurait une crise tellement marquée que de toute façon, ça serait la fin de l'euro, potentiellement, et on aurait des défauts sur nos dettes. Donc ça veut dire que le politique, et aujourd'hui on le voit, la question politique est devenue centrale, même dans la gestion des dettes. Pourquoi aujourd'hui on fait confiance à la France? C'est qu'au finalement, elle a plutôt des atouts à long terme. Une fois de plus, la démographie, politiquement,
une stabilité politique.
Stabilité politique dans un monde où il y a une instabilité totale, finalement, la France en sort plutôt bien, des infrastructures qui fonctionnent, encore un peu de productivité. On n'est pas le dernier de la classe. C'est vrai que sur le déficit public, on n'est pas les meilleurs, mais sur d'autres points, on est plutôt plus attractif qu'avant. Donc, je veux dire, effectivement, on peut voir un tableau qui est extrêmement sombre. On peut voir aussi le tableau, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt une valeur refuge. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire open bar et faire de la dépense publique à outrance. Aujourd'hui, les déficits publics prévus pour 2020, c'est 2% du déficit. C'est 2% du déficit.
C'est longtemps qu'on n'a pas été à 2%.
On n'est pas à 2%. Les taux ne vont pas remonter du jour au lendemain. C'est la question, qu'est-ce qu'on fait de ces taux? Est-ce que ces taux bas, on dit, effectivement, on les utilise pour baisser notre dette ou pour investir, pour relancer l'activité, pour gérer la transition énergétique? Aujourd'hui, les investisseurs se demandent de la dette. C'est ça, là, le grand paradoxe. C'est qu'on n'a jamais été aussi endetté et jamais autant d'investisseurs ont voulu acheter de la dette française.
Les États sont endettés, les entreprises sont endettées, les particuliers sont endettés.
Il y a de l'épargne.
Mais on est dans un système quand même démocratique où on a choisi d'une certaine manière ça. C'est-à-dire qu'en France, on veut que l'État s'occupe de tout. Et on voit bien ce que tous les gens demandent aujourd'hui, c'est que l'État s'occupe d'eux, que l'État leur donne un bon logement, leur donne les moyens de vivre correctement, leur donne les moyens d'être soignés correctement, leur demande de s'occuper de leur retraite, de s'occuper de l'innovation, de s'occuper de tout. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on fait? On est prêt à payer beaucoup d'impôts. Donc on est un des pays où le consentement à l'impôt est le plus élevé. Et c'est pour ça aussi que les créanciers nous font confiance, parce qu'ils savent que finalement, en France, quand on augmente les impôts, les gens râlent, ils ne sont pas contents, ça pèse un peu sur la croissance, mais les gens payent et on a un système de recouvrement de l'impôt qui est très bon. Donc là, on est dans ce système où l'État fait tout et on paye beaucoup d'impôts et finalement, ça nous convient bien puisque chaque fois qu'il y a un problème, on se retourne vers l'État pour qu'il le règle. Alors, est-ce que ce système va continuer, va perdurer ? La question qu'ont posé les Gilets jaunes en commençant à dire, nous, finalement, on ne comprend pas ce qu'on reçoit, et puis on trouve qu'on paye beaucoup, et où part le pognon, elle montre que peut-être que là, on arrive à un moment où il faut se poser les bonnes questions.
Du modèle.
Et c'est surtout, si les créanciers de la France, si les investisseurs étrangers qui achètent de la dette française voient que tout à coup, l'impôt commence à moins bien rentrer en France, là, il pourrait avoir des inquiétudes. Mais vous savez, avec le système de TVA, avec le prélèvement à la source, on est plutôt bon pour ça.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Emmanuel Macron distribue les milliards qu'il n'a pas. Va-t-il accroître les déficits? Qui va finalement payer?
Oui, non, mais sur les déficits, tout à l'heure, Mathieu Plane disait 2% l'année prochaine, avant le 5 décembre. On va voir ce qui va se passer, parce que tel qu'on est parti, ça m'étonnerait qu'on soit à 2%. On verra.
Bon,
Vous me direz peut-être.
Qui va payer
donc les créanciers, c'est-à-dire ceux qui nous prêtent. Et ce qu'on disait tout à l'heure, oui, ils continuent à nous prêter, donc tout va bien. Je rappelle toujours les marchés financiers, c'est pas tout d'un coup, ils pèteront que 95%. C'est brusquement un retournement, ce qu'ont connu des pays comme l'Italie, c'est-à-dire tout d'un coup, les taux s'envolent, parce que tout d'un coup, on n'a plus confiance. Donc il faut faire attention de pas franchir cette limite.
La question, c'est l'alternative, en fait. On fait ça parce qu'on espère avoir plus de croissance. Tant qu'on a de la croissance, on n'a pas de problème pour financer cette dette et ces déficits. On peut même espérer les réduire par la croissance.
Mais on n'a pas de croissance, là.
Mais on a quand même une meilleure croissance que les autres pays en Europe.
D'accord.
Et notamment grâce au coup de pouce du pouvoir d'achat qui est venu après la crise
des Gilets jaunes. C'est à la zone euro qui essaie tant bien que mal de relancer la croissance.
La zone euro, non. Mais dans la zone euro, la France s'en tire plutôt pas mal. Imaginez ce que serait la situation si on n'avait même pas cette croissance. Donc finalement, cette dette, ces dépenses qui permettent de soutenir la croissance, elles ont quand même un intérêt.
Après, la difficulté, c'est qu'à titre individuel, on donne du pouvoir d'achat aux Français, mais ils ne le dépensent pas. Parce que justement, ils s'inquiètent, donc ils l'épargnent. Donc c'est aussi ça. Consommer, ça veut dire relancer quelque part, redonner de la croissance. Et là, aujourd'hui, en tout cas, même si les économistes vous disent qu'il faut un certain nombre de trimestres pour que le pouvoir d'achat, finalement, les Français le consomment, aujourd'hui, on voit que le livret A, les taux de livret A chaque mois n'ont jamais été aussi élevés et que les Français... Et c'est vrai que c'est une histoire de confiance. C'est une histoire de confiance de la part des créanciers qui prêtent à la France, mais c'est aussi une histoire de confiance vis-à-vis des citoyens eux-mêmes. Et c'est là où on a un paradoxe. Et la difficulté pour le gouvernement aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver de la confiance, que les Français lui fassent confiance. Et on est là, aujourd'hui, dans un on voit bien cette défiance qui monte à chaque fois de la part d'un sur même les réformes qui seront faites ou pas.
Comment croire que tous ces conflits sociaux vont se résoudre à coup d'enveloppes budgétaires supplémentaires? Ça aide quand même. Derrière les milliards, il y a des gens. Les 17 milliards de la crise des Gilets jaunes ont quand même permis de faire 2-3 choses.
Deux, trois choses, c'est vrai que c'est même presque du jamais vu. C'est-à-dire d'avoir débloqué autant de fonds en si peu de temps. Donc ça a remis en question d'ailleurs même le programme même d'Emmanuel Macron, qui était quand même plutôt sur une politique d'offres. Là, on voit que c'est réorienté sur la question du pouvoir d'achat. C'est vrai qu'on n'est pas sur une analyse très structurelle des choses. C'est-à-dire que la vraie réforme structurelle, c'était la réforme des retraites. Mais justement, ce qui est, à mon avis, assez perceptible, et sur cette histoire de confiance, c'est qu'on voit bien qu'on a dopé le pouvoir d'achat, parce que les mesures fiscales qui ont été plutôt ciblées sur les classes moyennes. Alors, tout le monde n'a pas eu la même chose. Mais bon, bref, ça a dopé le pouvoir d'achat. Maintenant, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on va faire les économies? Et ça, c'est le débat actuel. Et est-ce qu'on ne dit pas...
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé.
Non, mais voilà, on donne d'une main, ok, pour le moment les déficits le permettent, mais on attend de quelle main on va reprendre ça. C'est-à-dire, et qui va payer finalement ? Qui va payer à la fin si jamais on veut être à l'équilibre budgétaire ? Effectivement, il faudra payer. Est-ce qu'on profite des taux bas de façon... Mais aujourd'hui, la question est quand même sur rétablir les finances publiques. Et si on rétablit les finances publiques, comme a dit le président, à un moment donné, il va falloir faire des économies. Et ces économies, c'est certainement du pouvoir d'achat en moins pour d'autres personnes. Ça sera
c'est
peut-être
plus
pas
la priorité.
Bah alors, justement, on voit que le climat social a quand même un peu changé les choses. Et donc, on est dans un rapport politique avec, une fois de plus, le fait que les taux soient bas change un peu la donne sur la gestion des finances publiques.
Une prime pour Paris, mais rien pour les provinciaux qui doivent avoir une deuxième voiture et payer le carburant. C'est une question qui nous vient de Dorrières dans l'Isère.
Et c'est vrai que c'est un drôle de signal. C'est un signal qui, surtout après une crise des Gilets jaunes où la question des territoires était montée très fortement, avec des territoires qui disaient eh oh, on existe, on est là, on n'a pas envie d'être des citoyens de seconde zone. Là, c'est un geste. Bon, les Parisiens, ou en tout cas ceux d'Île-de-France, vont être satisfaits. Mais on comprend, on le voyait dans votre reportage, je crois que la dame était à Nice, dans un premier reportage, on comprend que ça laisse un certain goût d'amertume pour ceux qui ne sont pas dans la région parisienne.
Les prix d'un séjour à l'hôpital vont-ils augmenter ?
Je crois que ça a été revalorisé. Les tarifs des actes ont été revalorisés.
En
donc,
mars,
a priori, oui, ça va augmenter, mais ils avaient été baissés pendant plusieurs années. Donc, ça redonne une enveloppe budgétaire aux hôpitaux. En fait.
Les gestionnaires des hôpitaux publics sont-ils compétents ?
Alors c'est tout le débat, là aussi, on a l'impression d'une volte-face, parce que pendant longtemps, enfin en tout cas les 10 dernières années, la gestion des hôpitaux, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy disait « l'hôpital doit être géré comme une entreprise », ce qui avait fait bondir, et il y avait un système de gouvernance qui faisait que c'était plutôt des directeurs d'hôpitaux, des gestionnaires qui géraient les établissements, et que les médecins, les mandarins d'ailleurs, avaient défilé, souvenez-vous, je crois que c'est en 2007 ou 2008 dans la rue, en disant « on est complètement écarté et un hôpital ne peut pas être une entreprise comme les autres. 10 ans après, on en revient. Et là, on en a moins parlé, mais dans le plan hôpital, il y a la volonté aussi de remettre les médecins un peu au centre du jeu, ou en tout cas dans les décisions qui sont prises, parce que vous l'avez très justement rappelé, un hôpital, ça n'est pas fait pour réduire la dette, pour ceux qui sont endettés, c'est fait pour soigner les gens.
Un niveau d'imposition record, une dette énorme, et malgré tout, des services publics sinistrés. On en parlait tout à l'heure, c'est vous qui... Où passe donc l'argent ? C'est William qui nous envoie cette question de Corse. C'est la question qu'ont posé les Gilets jaunes. C'est le modèle qui est, en réalité, mis un peu au défi.
Bien sûr. Non, mais c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je crois vraiment que c'est des questions d'arbitrage qui sont en réalité le cœur du courage politique. C'est de dire, je décide que c'est ça qu'il faut absolument favoriser. On disait tout à l'heure l'hôpital, on peut dire très bien, on met beaucoup d'argent dans la recherche médicale, on peut mettre beaucoup d'argent, mais dire à ce moment-là, ça veut dire qu'il va falloir regarder où on en enlève. Ouais. Et s'il ne faut pas que quand, ouais, effectivement, vous ayez le moindre mouvement, etc. Et je pense que lorsque l'on ne définit pas ces stratégies, du coup, effectivement, tout le monde se dit, ça peut être moi la prochaine victime, donc il vaut mieux que j'anticipe, ouais, et que je dise attention, que ça ne tombe pas sur moi. Donc là, on est avec quelque chose dans lequel le manque de visibilité, à mon avis, est le problème absolument majeur. Et résultat, eh bien, année après année, et toujours pareil, hein, il faut se placer sur le temps long dans les finances publiques. Le temps long, c'est des dizaines, ouais, d'années. Ouais. C'est le jour où tout d'un coup, ça se renverse, on dit, ah mais oui, mais ça fait des années que ça s'est dégradé. La Grèce, c'était typiquement ça, vous voyez. L'Italie, c'est typiquement ça. C'est des années et des années où on s'est dit, oh, maintenant, ça marche. Et puis un jour, quand tout d'un coup ça ne marche plus, alors là, quand on regarde en arrière, on dit « mais c'est incroyable qu'on n'ait pas su faire des arbitrages à ce moment-là, c'est incroyable qu'on n'ait pas fait ses choix au moment où c'était tellement évident qu'il fallait les faire ».
Philippe de Sertine, le temps long des finances publiques, le temps court des médias, le temps court de la politique.
Mais
c'est ça la difficulté.
Mais peut-être juste pour dire où est-ce qu'est passé l'argent, parce que c'est vraiment l'enjeu, hein, je pense, effectivement, la dette a explosé depuis 2007, c'est qu'on a eu une crise quand même financière majeure depuis 2009, qu'on était habitué à vivre avec plus de 2% de croissance, aujourd'hui on est plutôt des régimes de 1%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a moins de recettes fiscales. On a dû faire des efforts pour soutenir la compétitivité des entreprises, hein, notamment avec le CICE, le pacte de responsabilité, et réduire les déficits. Mais sauf qu'en fait, on a fiscalisé beaucoup les ménages et que leur poids d'achat avait diminué, on leur demande de faire des économies en face. Donc il y a à peu près cette impression de payer plus d'impôts et de recevoir, ouais, moins de services publics et de se dire, bah, finalement, qui gagne là-dedans, quoi.
Mais c'est là que vient la colère.
Le gros
très
de la
vite,
dépense, elle m'a perturbée, la question de William, mais le gros de la dépense, c'est quand même ce qu'on reçoit, c'est quand même les allocations chômage, c'est quand même les pensions de retraite, c'est quand même les allocations familiales. Les allocations logement,
l'éducation, l'hôpital.
Donc, elle est quand même là. Hein.
Merci de terminer sur une note positive. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25. On se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.